Géopolitique.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Après avoir été chassé en juillet de Mossoul, son dernier bastion en Irak, le groupe État islamique a perdu la ville syrienne de Raqqa le 17 octobre après de longs mois de combats. Raqqa, dont le Hi avait fait la capitale de son califat autoproclamé en juin 2014. Alors la chute de ces deux villes marque-t-elle la fin du califat et de l'organisation d'Abou Bakr el-Baghdadi ? Faut-il se préparer à un changement de stratégie de l'EI, doublé d'une volonté d'expansion tous azimuts, via ses filiales, entre guillemets, du Sinaï égyptien au Sahel, en passant par l'Afghanistan jusqu'aux confins de l'Asie? Quelle attitude adopter face aux revenants, ces djihadistes vrais ou faux repentis, qui rentrent dans leur pays d'origine après avoir combattu dans les rangs du groupe État islamique en Syrie et en Irak? Nous allons débattre avec nos trois invités. Agnès Levallois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient. Romain Caillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur, spécialiste des mouvements djihadistes et vous venez de publier chez Stock « Le combat vous a été prescrit, une histoire du djihad en France ».
Co-écrit avec Pierre Puchot.
Co-écrit avec Pierre Puchot, je l'avais oublié. Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Je voudrais qu'on commence, Romain Caillet, par la chute de Raqqa et cette polémique après les révélations de la BBC. Quelques 300 combattants armés du groupe État islamique, parmi lesquels des étrangers, ont pu s'échapper de la ville le 14 octobre en se mêlant à un convoi de civils. Où sont passés ces djihadistes? Et est-ce que la coalition internationale avait donné son accord ou pas à cette évacuation?
C'est très difficile de savoir ce qui a été dit dans les négociations qui ont certainement été secrètes entre les différents protagonistes. Ce qu'on sait en revanche, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a une exfiltration de djihadistes. Ça a été fait à Jarablus, où on a Oumenbi, je ne sais plus, enfin, une des deux villes en tout cas. On avait dit que les djihadistes avaient pris des otages, puis après on a dit que c'était leur famille. Ça a été fait dans plusieurs villes irakiennes. Ça a été fait à Fallujah, sauf que là, il y a eu bombardement par l'armée irakienne du convoi de djihadistes avec leur famille qui sortait. Ça a été fait à Tabqa, où là encore, il y a eu un clivage. Et puis là, ça a été fait. Donc là, manifestement, il n'y a pas eu de désaccord entre les différents protagonistes. Ça arrive souvent. Pourquoi il y a ces négociations? Eh bien, tout simplement parce que les forces locales veulent prendre la ville sans avoir le moins de morts et pour gérer l'après-combat, pour pas avoir une population trop hostile, éviter de faire trop de morts parmi les civils. Alors le problème de la coalition, c'est que elle soutient les forces locales en raison de la crainte que représentent les djihadistes étrangers, mais justement, si ceux-là même dont le but c'est de les détruire en soutenant les forces locales, bah, si on les laisse partir, forcément ça pose un problème. Donc moi ça m'étonne pas que au moment où il y avait ces négociations, il y a eu une certaine ostentation des responsables politiques français pour dire oui, on veut vraiment tous les détruire. Donc je pense que si les politiques ont dit ça, c'était parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se négociait sur le terrain et qu'on allait justement les laisser partir.
Agnès Levallois, vous comprenez que cette exfiltration des djihadistes étrangers de Raqqa ait pu choquer?
Oui, bien sûr, parce que le discours ici, c'est de dire que le plus de djihadistes mourront sur place, mieux ce sera, parce que ça évitera qu'ils reviennent. Je parle de façon très cynique, mais c'est le discours quand même qu'on a beaucoup entendu. Et donc, on voit bien la difficulté finalement entre, d'un côté, dire on n'a pas du tout envie que ces djihadistes reviennent, et en même temps, de ne pas prendre le risque, comme vient de dire très bien Romain Caillet, de ne pas tuer aussi beaucoup de civils dans le cadre de cette reprise de la ville par la coalition occidentale ou par les forces qui sont sur place. La marge de manœuvre, finalement, est très étroite. Parce que l'idée, c'est qu'il faut reprendre ces villes et faire partir ces djihadistes et en même temps éviter qu'il y ait trop de morts et de ce qu'on appelle pudiquement les dégâts collatéraux. Et en tous les cas, que les civils ne soient pas touchés, parce que c'est vrai que pour la gestion après de la ville, ça devient très compliqué s'il y a eu beaucoup de morts. C'est pour ça que je parle d'une marge de manœuvre qui est extrêmement étroite finalement et que dans ce cadre-là, des accords soient passés pour permettre l'exfiltration finalement de ces djihadistes. Ça paraît être une voie qui est un peu inévitable dans le contexte dans lequel on se trouve.
Alors que sont devenus ces djihadistes étrangers? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux, dans leur pays d'origine, ou est-ce qu'ils pourraient rejoindre des branches locales de l'EI dans d'autres pays?
Moi, je pense pas que tous les djihadistes aient envie de revenir, parce qu'ils savent d'abord très bien ce qui les attend ici, et que certains ont sûrement envie. Alors, on les a vus, certains se sont éparpillés dans la nature. On est quand même dans une région désertique, avec une possibilité quand même de pouvoir essayer de se reconstituer d'autres bastions ailleurs. Et donc, je pense que certains d'entre eux, qui sont les plus déterminés et qui sont convaincus du combat qu'ils mènent, vont essayer de se regrouper, de se réorganiser. Et on voit déjà, de toute façon, des djihadistes présents sur d'autres terrains que le terrain syro-irakien. Donc certains d'entre eux peut-être seront tentés de rejoindre les terrains qui existent par ailleurs, c'est-à-dire je pense au Sinaï, je pense à, même si en Libye il y en a beaucoup moins, on a beaucoup de l'Asie hein, où il y a aussi un certain nombre de djihadistes. Et certains, je pense que dans ce contexte-là, on ne peut pas parler d'une façon uniforme. Il n'y aura pas une seule réaction de la part de ces djihadistes. Certains essaieront quand même de rentrer. Est-ce que certains essaieront de passer à travers les mailles du filet pour aussi avoir d'autres projets en Europe? C'est pas non plus exclu. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation extrêmement compliquée parce qu'il n'y aura pas une seule réaction de la part de ces djihadistes.
Pour vous, Romain Caillet, est-ce que la fin de ce califat autoproclamé, d'un point de vue territorial, est-ce que ça veut dire la fin du groupe État islamique ou est-ce que on va le voir ressurgir sous d'autres formes peut-être ou adopter une nouvelle tactique, une nouvelle stratégie militaire?
Il faut bien comprendre ce qui s'est passé en juin 2014 quand il y a eu la proclamation de la restauration du califat. Le califat, c'est un pouvoir temporel et un pouvoir religieux. Évidemment, ça s'adressait pas aux musulmans lambda, ça s'adressait aux djihadistes. C'était, je pense, l'État islamique qui estimait avoir été peut-être trop loin dans l'expansion territoriale et savait que forcément il y avoir une coalition et un retour dans la clandestinité qui pensait que c'était vital de prendre la place d'Al-Qaïda. C'est-à-dire passer d'un groupe qui était local, régional, à un groupe déterritorialisé comme Al-Qaïda. Mais pour ça, il fallait prendre la place d'Al-Qaïda et en restaurant le califat, de cette autorité, en incitant tous les groupes, puisque le jour de la proclamation du califat, le porte-parole de l'État islamique a dit à partir de maintenant, tous les groupes djihadistes dans le monde sont dissous. C'est très important de rappeler ça. Et maintenant, l'État islamique va continuer avec ce slogan du califat pour fédérer différents groupes djihadistes dans le monde. D'autant plus que, parallèlement à cela, vous avez toutes les branches régionales d'Al-Qaïda qui sont de plus en plus dans des logiques de régionalisation. Il y a l'exemple de Jabhat al-Nusra qui est devenu Jabhat Fath al-Sham, puis Hayat Tahrir al-Sham. Même maintenant, ils arrivent à avoir des conflits avec Al-Qaïda centrale. Il y a eu récemment, ils ont été attaqués par Zawahiri dans le dernier communiqué. Vous avez ACMI au Sahel qui a fusionné avec Ansaruddin, Mourabitoun et les Katiba du Massina sur un groupe qui s'appelle Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin.
Le groupe de soutien de l'islam et des musulmans.
Absolument.
Ziad Agrali.
Oui, d'ailleurs, bon, maintenant ACMI n'existe plus qu'en Algérie. Là encore, ils vont vers des logiques régionales. Et ce qui était intéressant, c'est quand ils ont déclaré ça, ils ont dit « Nos frères du Levant, c'est-à-dire de Syrie, sont nos modèles. » Ceux-là même qui étaient rentrés d'ailleurs en conflit avec Al-Qaïda. Au Yémen, même si c'est le groupe, on va dire, le plus proche de la branche centrale Al-Qaïda, il y a quand même eu une volonté de d'abord changer de nom. Ça s'appelait Al-Qaïda dans la péninsule arabique, puis Ansar al-Shalira. Puis, il y a une structure, quand ils géraient Moukalla, qui s'appelle les fils du Hadramaut. Donc on a tous ces groupes. Cette situation paradoxale que l'État islamique, au début, est une organisation régionale qui s'est étendue en Syrie et puis qui a absorbé tous les combattants étrangers qui, eux, étaient dans les logiques internationalistes. Et de l'autre, Al-Qaïda, qui était purement transnational, qui a évolué vers des logiques nationales.
Mais du coup, qu'est-ce qui va...
Et tout ça, les djihadistes... Et récemment, il y a un chercheur mauritanien, Mohamed Oul Mohamedou, qui avait dit « De plus en plus, le djihadisme sera une question occidentale. » Il n'a pas tout à fait tort dans le sens où les djihadistes occidentaux sont tous dans des logiques transnationales et ça les intéresse pas, les logiques régionales, voire encore pire, nationales pour eux. Donc, on a toute une génération de djihadistes internationalistes qui, de toute façon, vont plutôt pencher vers l'État islamique que vers Al-Qaïda au niveau de la politique qu'ils prônent. Il y a depuis longtemps un clivage entre les courants les plus extrémistes de la mouvance djihadiste et les talibans qui n'ont pas un fondement idéologique purement salafiste ou wahhabite, qui sont influencés par le hanafisme, le maturidisme. Al-Qaïda a arrivé un peu à gérer cela, mais il y a toute une portion des Afghans qui sont dans une logique purement salafiste ou wahhabite, surtout chez les jeunes, qui sont hostiles aux talibans. Et là, l'État islamique va présenter une offre islamiste religieuse que Al-Qaïda, qui est liée aux talibans, ne peut pas proposer.
Vous êtes d'accord, Jean-Luc Racine ?
Je suis d'accord au moins sur un point, c'est que tout ça est, un, extrêmement compliqué, deux, marqué quand même par une grande fluidité, fluidité à tous égards, la fluidité des organisations qui changent de nom, est-ce qu'en changeant de nom, elles changent aussi de substance, de chef, etc. Et ce qui reste effectivement comme question fondamentale, c'est l'articulation entre les logiques régionales. Encore faudrait-il savoir ce qu'on entend par là. C'est une question d'échelle. On sait bien que dans les talibans afghans, il y a un projet, on va dire, national, entre guillemets, qui est l'émirat islamique d'Afghanistan, le nom officiel des talibans, mais que dans la réalité des choses, joue énormément des relations tribales, des ancrages locaux, des conflits locaux. Et donc, les dynamiques qui se déploient répondent à tous ces paramètres. Ça explique pourquoi, par exemple, quand on parle de l'État islamique en Afghanistan, on sait très bien que la plupart des gens qui s'en réclament, et pour s'en réclamer, il suffit pas d'agiter de temps en temps le drapeau noir de l'État islamique, comme on l'a vu, par exemple, au Cachemire, plutôt que le drapeau pakistanais pour agacer les Indiens. Ce qu'il faut essayer d'analyser, c'est quand même passablement difficile, c'est comment un certain nombre de djihadistes, si on emploie ce mot pour simplifier, peuvent passer d'une instance à une autre et éventuellement y revenir. Et là, si on prend le cas afghan, qui est évidemment le plus significatif hors Moyen-Orient au sens strict, parce qu'il a des implications géopolitiques majeures, dans lesquelles interviennent les Américains, bien sûr, mais aussi les Russes et les Chinois, pour ne pas parler des Indiens. La vraie question, c'est est-ce que l'Afghanistan, avec un gouvernement faible, mais qui ne s'effondre pas quand même, avec un territoire dont on estime que les talibans occupent 40%, 50%, mais alors est-ce qu'ils occupent le jour, est-ce qu'ils occupent la nuit? En tout cas, il est clair que les talibans ont élargi leur bastion, et il y a maintenant une présence dans le nord du pays, et la présence de talibans dans le nord du pays, ça soulève évidemment la question de que se passe-t-il en Asie centrale? Si on considère que une bonne partie de ce qui s'appelle État islamique en Afghanistan, ce sont en fait des anciens talibans pakistanais qui ont été chassés des zones tribales pakistanaises quand l'armée pakistanaise s'est réveillée après l'attaque contre l'école, le lycée militaire de Peshawar, fin 2014. On a d'un côté donc des sources locales qui créent des bastions en Afghanistan. On a les talibans afghans, à ne pas confondre avec les talibans pakistanais, les talibans afghans qui ont écrit à al-Baghdadi pour dire « mêlez-vous de ce qui vous regarde », en fait, c'est pour dire « le califat, ça n'existe pas ». Nous, nous sommes l'émirat islamique d'Afghanistan. Et il y a eu donc d'un côté des combats entre talibans et éléments rebaptisés État islamique.
Mais au début, on a dit que les talibans avaient vu d'un mauvais œil arriver donc les combattants de l'État islamique, mais qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y avait des alliances ponctuelles entre les deux camps.
Ben, le point important, là, c'est le ponctuel. C'est pas alliance.
Au début, on a dit que c'était le Moulay Omar. Et après, on a su que c'était des lettres qui avaient été fabriquées, effectivement, par les talibans.
C'est Mansour.
Il était mort depuis un moment.
C'est le Moulay Mansour.
Et l'État islamique a joué là-dessus pour décrédibiliser les talibans en disant ils mentent. De toute façon, leurs critiques, c'est parce qu'ils sont déstabilisés par la restauration du califat. Et ils appellent les gens à faire allégeance à un mort.
Ce qui est clair, c'est qu'on est vraiment dans une situation, ce que disait Jean-Luc Racine tout à l'heure, de fluidité. C'est-à-dire que le côté opportuniste d'alliance ou de moments qui font que tel groupe ou telle déclaration va apparaître va être possible dans un contexte tout à fait précis, mais qui ne sera plus forcément valable à un autre moment, parce qu'il y a aussi des querelles et il y a aussi une perception et une volonté de mettre en place un projet qui n'est pas partagé par tous dans la façon de le faire et qui a aussi des ambitions personnelles. On n'est pas dans un système hors sol, on a affaire à des êtres humains qui ont un projet, chacun ayant envie de mener à bien son projet, n'ayant pas forcément envie de référer ou de se mettre sous la coupe d'un autre. Donc il y a aussi cet élément-là à prendre en compte si on veut essayer de comprendre cette multiplicité. Et en tous les cas, c'est vrai que je crois que le terme de ponctuel me paraît résumer parfaitement bien la
situation.
C'est
vrai, mais ça c'était surtout au début. C'est vrai, mais ça c'était surtout au début où effectivement il y avait des gens, c'était pour l'aspect financier qui pourrait représenter l'État islamique. Et puis, bah, comme a dit Madame Levallois, dans toute organisation humaine, il y a toujours des gens qui sont pas contents de la place qu'ils ont et qui estiment qu'ils pourraient avoir d'autres responsabilités ou avancer plus vite. Ce qui explique pas mal de scissions qu'il y a pu avoir, bon, chez les djihadistes et dans d'autres mouvances politiques.
Je voudrais revenir à la situation en Syrie et en Irak. Quelle est la portion de territoire occupée maintenant par le groupe État islamique par rapport à 2014?
Bon, ça a considérablement diminué. Il me semble que là, maintenant, après la perte de Boukamal, il n'y a plus que quelques villes qui leur restent au sud-est de la région de Deir ez-Zor, quelques petits villages dans la région de Hasaka, quelques petits villages aussi dans la région de Hama. Et enfin, bon, c'est paradoxal, mais la zone la plus cohérente et stable de l'État islamique en Syrie, bah, c'est occupé par un groupe qui officiellement n'est pas l'État islamique, c'est Jaïch Khalid ibn Walid. Ils sont dans le sud de la Syrie, à proximité d'Israël. Donc en fait, c'est dans ces quatre zones qu'on peut retrouver l'État islamique en Syrie. Maintenant, ils vont clairement passer dans la clandestinité et faire des assassinats ciblés, des attentats, pourquoi pas si la pression de la coalition venait à diminuer, parce que à ma connaissance, je crois que les bombardements n'ont jamais été aussi peu nombreux. Donc si la pression de la coalition venait à diminuer, pourquoi pas éventuellement reprendre des villes. On avait vu qu'ils avaient pris Palmyre, ils avaient repris au régime syrien assez rapidement. Donc bon, c'est pas exclure, mais je pense quand même que là, ils sont dans la clandestinité pour quelques années.
D'ailleurs, le président iranien a déclaré que l'État islamique n'existait plus en Syrie, enfin avait été complètement éliminé. Donc c'est pas rien, une déclaration qui vient de la part du président iranien, lorsque l'on sait le soutien de l'Iran au régime de Bachar el-Assad, et qui est aussi une façon de dire, ça y est, la situation est sous contrôle, même s'il reste des poches dont il n'a pas parlé, évidemment, mais c'est une façon aussi politiquement de dire quelque chose d'important de son point de vue.
Et est-ce que le HIN ne va pas manquer de ressources financières? Ou est-ce qu'il a mis de côté quand il y avait le pactole du pétrole, notamment, mais aussi des taxes prélevées sur la population dans les zones qu'il contrôlait?
Mais il a quand même dépensé beaucoup d'argent, parce que pendant les années où il y a eu la mise en place de ce califat, et donc ça a nécessité des ressources pour payer les combattants, pour financer un État, puisqu'il y avait 8 ministères, il y avait quand même toute une organisation des infrastructures administratives à gérer. Et simplement, la perte de contrôle du territoire par l'organisation État islamique l'empêche de recueillir les ressources issues d'un État. Par exemple, toutes les taxes qui étaient prises sur la population, aujourd'hui, n'ayant plus de contrôle sur la population, ne peut pas l'avoir. Les puits de pétrole, ça fait longtemps que l'État islamique n'a plus le contrôle. Donc, c'est vrai que les ressources de l'État islamique aujourd'hui sont en grande difficulté, et donc il n'a plus la même capacité à pouvoir mettre ça en avant.
Mais est-ce qu'il a... Oui, allez-y, Romain Caillet.
C'est clair que là, ils auront moins de ralliements opportunistes, que ce soit en Syrie ou en Irak, mais surtout à l'étranger, puisque beaucoup de groupes djihadistes qui s'étaient séparés d'Al-Qaïda, parce qu'ils voyaient une formation djihadiste qui allait leur donner des moyens considérables. Donc là, ce que ça change au niveau de l'argent, c'est clairement, ils n'auront plus du tout de ralliements opportunistes. Mais il reste quand même qu'il y a un certain nombre de sympathisants. Les raisons pour lesquelles les gens faisaient scission, rejoignaient plutôt l'État islamique qu'Al-Qaïda, ou abandonnaient des groupes rebelles en Syrie, c'était effectivement la raison financière, la raison pour avoir plus de pouvoir, avoir les responsabilités que on estimait mériter mais qu'on n'avait pas pour certaines personnes, et aussi la différence idéologique, ce qui faisait la différence entre Al-Qaïda et l'État islamique, et ça reste toujours, et il y a toujours donc cette alternative idéologique au sein de la mouvement djihadiste, cette alternative à l'Al-Qaïda qui est proposée par l'État islamique. Ça reste, et c'est structurel, et ce qui fait que l'État islamique, oui, va durer, mais clairement, il n'y a plus une dynamique d'adhésion par rapport à ce que ça a été dans le passé.
Agnès Levallois, vous êtes d'accord, l'idéologie de l'État islamique est pour longtemps dans les têtes?
Pour moi, c'est évident, dans la mesure où les raisons pour lesquelles cette organisation a pu émerger, les raisons qui de cela sont toujours là et n'ont pas été traitées du tout. Comment on a réglé pour l'instant la lutte contre cette organisation? C'est d'un point de vue militaire, en bombardant, en mettant à mal cet État, ce califat tel qu'il était. Mais les raisons profondes qui ont permis l'émergence de cette organisation sont toujours là et n'ont absolument pas été réglées d'un point de vue politique. Donc je pense que tant qu'on sera dans cette dynamique-là, il n'y a aucune raison que l'idéologie et que les raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes ont envie de rejoindre cette organisation soient remises en question. Donc je pense que c'est absolument essentiel, quand on parle de la fin de cette organisation, de bien faire le distinguo entre la fin de cette organisation d'un point de vue territorial dans l'organisation d'un califat, avec tout ce que ça représentait pendant les quelques années où ce califat existait. Là, on parle maintenant de quelques pourcentages du territoire qui resterait sous contrôle de l'État islamique par rapport au territoire que cette organisation contrôlait il y a des années. Mais je crois qu'il faut absolument revenir aux raisons et de réfléchir à un règlement politique. Et je ne vois pas du tout aujourd'hui ce sujet mis sur la table. Alors que pour moi, c'est vraiment le sujet essentiel, majeur, maintenant que la menace que représente l'organisation a baissé, puisqu'il y a eu cette réaction. Et je le répète, une solution militaire ne permettra jamais de régler la question. Qu'il faille en passer par là, peut-être, sûrement, ça a été fait, mais il faut surtout pas s'arrêter à ça.
On va marquer une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. Agnès Levallois, Jean-Luc Racine et Romain Caillet, on se retrouve dans 10 minutes.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de Géopolitique. La chute de Raqqa marque-t-elle la fin du groupe État islamique? Les djihadistes vont-ils renoncer à leur projet de califat? On en débat avec Agnès Levallois, chargée de cours à l'ENA et Sciences Po, spécialiste du monde arabe, Romain Caillet, historien, chercheur, spécialiste des mouvements djihadistes, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS. Le 17 octobre, Emmanuel Macron a salué la chute de Raqqa, mais une victoire totale contre Daesh, a souligné le président français, passe par une stabilisation dans la durée de la Syrie et de l'Irak. Il faut, a-t-il dit, une solution inclusive et plurielle. On en est encore très très loin, Agnès Levallois.
Oui, on en est loin, parce qu'on voit bien que la situation politique en Irak est loin d'être stabilisée et que la question syrienne n'a pas commencé à être réglée, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc je crois qu'effectivement le président Macron a tout à fait raison de dire qu'il faut absolument stabiliser la situation politique dans ces deux pays si on veut commencer à trouver un début de réponse à la raison pour laquelle cette organisation a pu émerger et a pu s'installer aussi facilement en Irak, en tous les cas lorsqu'on a vu la prise de Mossoul. Et donc ça veut dire que le système politique tel qu'il est mis en place aujourd'hui à Bagdad, qui est un pouvoir dirigé par le Premier ministre Abadi, ne permet pas à toutes les composantes de la population irakienne de se retrouver et de pouvoir accepter ce pouvoir qui est à Bagdad, qui est un pouvoir, comme vous le savez, aujourd'hui entre les mains d'un Premier ministre qui est chiite et avec une partie de la population sunnite qui ne se sent pas représentée comme elle estime qu'elle devrait l'être.
Donc
dans
tout va
les
dépendre de la place qui sera accordée à la population.
Tout va dépendre de la façon dont le gouvernement de Bagdad va pouvoir donner sa place aussi bien aux sunnites mais aux Kurdes. On a vu quand même récemment avec aussi le référendum qui s'est déroulé au Kurdistan irakien et avec toutes les conséquences que cela a eu. Et dans le cas de la Syrie, la question effectivement est entière puisqu'on voit même s'il y a des tentatives aujourd'hui de négociations menées essentiellement par les Russes, on voit bien qu'on est loin d'une approche, d'une solution inclusive permettant à toutes les composantes de la population syrienne soit à même de se retrouver dans ce qui pourrait émerger dans le cas de ces négociations. Et donc la vraie question aujourd'hui, elle est évidemment là.
Romain Caillet, est-ce que c'est l'influence croissante de Téhéran et cet arc chiite qui va de l'Iran au Yémen en passant par la Syrie, l'Irak et le Liban, qui est maintenant le facteur de déstabilisation numéro un dans la région?
Il y a une politique passive des Occidentaux, y compris des Américains, devant chaque avancée des forces pro-iraniennes dans la région. Dès qu'il y a une victoire des milices iraniennes dans une zone traditionnellement sunnite tenue par les djihadistes, ils sortent des drapeaux non pas syriens ou irakiens, mais des drapeaux confessionnels. Et il y a des Husseinia qui sont construits dans des zones, par exemple à Fallujah, où il n'y en avait pas auparavant. Donc il y a clairement une volonté, mais c'est aussi une revanche des chiites, qui c'est la continuité d'une population qui a été discriminée pendant des décennies sous Saddam Hussein. Tout d'un coup, ils se retrouvent au pouvoir, dominant militairement, démographiquement. Donc ils ont une volonté de revanche. En Syrie, c'est tout autre chose. C'était des célébrations jusqu'à présent discrètes des rites chiites qui avait lieu dans certains endroits de Syrie, qui maintenant se font non seulement par les populations converties au chiisme qu'il y avait auparavant, puisque les chiites, c'est pas grand-chose en Syrie. Il y a une grosse communauté alaouite, mais des chiites du Houssima, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, maintenant, c'est des milices qui paradent dans les rues de Damas lors des grandes célébrations chiites. Donc, clairement, on est dans une logique de victoire de l'axe iranien sur fond de domination communautaire.
Alors maintenant que l'EI a perdu son fief donc territorial à cheval entre la Syrie et l'Irak, où est-ce qu'il va tenter de s'implanter ou d'essaimer en priorité selon vous, Romain Caillet?
Je pense qu'il sert à s'implanter là où il peut s'implanter. C'est-à-dire que si il peut revenir en Irak, en Syrie, il le fera. S'il arrive une crise majeure autre part dans le monde et qu'il y a une opportunité qui se fait, bah, ils s'implanteront là. Je pense qu'il y a beaucoup de djihadistes, surtout des arabophones, qui sont actuellement en Turquie, qui est avant de soit repartir en Syrie, en Irak, quand la situation le permettra. Ils se mêlent plus ou moins aux réfugiés syriens en Turquie. Ils se font passer parfois pour syriens. Et puis, sinon, avec leur passeport tunisien, marocain, égyptien, il y a un certain nombre de pays où ils n'ont pas besoin de visa. On pense notamment vers la Malaisie, l'Indonésie. De là, ils peuvent essayer de partir aux Philippines ou beaucoup de pays d'Afrique noire Et après, bon, il y a plusieurs destinations. Mais aussi, ils regardent, ils attendent de voir ce qui se passe et éventuellement retourner sur les terrains syriens et irakiens. Tous ne veulent pas rentrer. Effectivement, ceux qui veulent rentrer, il y a les déçus. Il y a aussi ceux qui ont des missions, qui ont une volonté de commettre des attentats. Mais beaucoup veulent aussi combattre les armes à la main dans le cadre d'un djihad, comme ils ont connu pendant plusieurs années en Syrie ou en Irak.
Jean-Luc Racine, on a beaucoup parlé de la montée de l'intégrisme en Asie. Le IS est installé par exemple au Bangladesh en 2015, mais son mode opératoire a changé. On est passé des assassinats ciblés à des attaques plus classiques, si j'ose dire, avec l'attaque contre le restaurant de Dhaka en juillet 2016. Est-ce que la menace en Asie, elle peut venir de là, du Bangladesh ?
Écoutez, moi, je dirais pas que le IS est implanté au Bangladesh. C'est pas une multinationale qui crée une agence dans tel ou tel pays parce qu'il y a un marché pour ça. Le marché est de toute façon encombré. Il y a un certain nombre de groupes bangladais.
Donc, qui ont fait allégeance.
Le sait-on vraiment? Il y a un certain nombre d'attentats qui ont été commis. Certains se revendiquant d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien, dont il faut quand même dire un mot, d'autres se revendiquant de Daesh. Mais de là à savoir si le Bangladesh héberge véritablement plus qu'une cellule, la question, à mon sens, reste posée, puisque le marché est très encombré, vous l'avez souligné. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est la compétition qu'il peut y avoir vis-à-vis de groupes existants, par rapport aux grands référents. Et les grands référents, c'est d'un côté Al-Qaïda, avec donc la création, qui paraît un peu bizarre, parce que c'était supposé exister, mais par Ayman al-Zawahiri, fin 2014, trois mois après la déclaration du califat. La création de Al-Qaïda dans le sous-continent indien, la formulation d'ailleurs était tout à fait étonnante. C'était pas l'Inde en général, mais certaines poches de l'Inde, c'était le Bangladesh et c'était la Birmanie. On voit pourquoi avec la question des Rohingyas aujourd'hui. Je parlais du Cachemire, où il y a des gens qui ont fait scission du Hezbollah Mujahideen, les insurgés cachemiris séparatistes de longue date, pour traiter tout le monde d'apostat, y compris les séparatistes cachemiris classiques. Donc, en fait, dans ces cas-là, quand on avance dans la voie d'une radicalisation contre tout ce qui s'est fait, y compris en action violente, au nom du djihad, on a toujours des apostats devant soi. Pour un certain nombre de talibans pakistanais qui sont maintenant devenus en quelque sorte les éléments majeurs de la présence revendiquée de l'État islamique en Afghanistan, le régime pakistanais, c'est un régime d'apostats. Je pense que c'est pour ça qu'il faut faire une distinction entre ce qui existe localement, là aussi dans une grande fluidité. Le nombre de mouvements islamistes radicaux bangladais, il y en a 3, 4, 5, ça change de nom, etc. Les Philippines avec Mindanao.
Mais est-ce que la situation est plus claire aux Philippines, puisque
oui, je pense, mais
les mouvements djihadistes qui ont pris, enfin occupé la ville de Marawi pendant 5 mois, avaient clairement fait allégeance.
Voilà, mais je pense que la question, c'est ça la bonne formulation. Ils font allégeance. Mais la grande question est de savoir comment des mouvements localement enracinés lèvent le drapeau de Daesh, qui est supposé être le drapeau d'un califat. Mais est-ce que la question de la refondation d'un califat est vraiment une question majeure pour eux, ou est-ce que c'est simplement une façon de radicaliser leur présence avec un mode d'expression qui permet de les dissocier des autres djihadistes ?
Qu'est-ce que vous en pensez, Romain Caillet, par exemple, aux Philippines ? Est-ce que le I finance directement la rébellion djihadiste aux Philippines ?
On
a dit qu'elle voulait en faire son prochain quartier général.
On l'a dit plusieurs fois qu'il y avait effectivement des raisons financières, des raisons d'ego pour lesquelles il y avait des gens qui prêtaient allégeance à l'État islamique. J'ai pas de détails là-dessus sur les flux de financement. Probablement, c'est une raison. Mais on a remarqué que, par exemple, aux Philippines, il y avait beaucoup de combattants étrangers. Donc là encore, c'est des gens qui s'intéressent pas forcément aux logiques locales, aux logiques nationales, qui sont dans une vision plus internationaliste. Donc c'est logique qu'ils tendent vers le groupe qui est le plus internationaliste et qui penche plus vers les dynamiques internationalistes, donc plus l'État islamique que Al-Qaïda. Il y a un moment où ils ont mis en avant la hijra, c'est-à-dire l'émigration aux Philippines. Maintenant, ils sont quand même finis par perdre Marawi. Ils ont laissé beaucoup de combattants. Je sais pas, est-ce que ça sera vraiment les Philippines où ils vont se replier pour que ce soit une terre de hijra attractive? Faut qu'il y ait un contrôle territorial. Là, actuellement, le contexte international fait que dès qu'ils vont se rassembler dans une zone, mettre en place des institutions civiles comme ils ont fait, ils vont tout de suite être bombardés massivement. Donc c'est peu probable, en tout cas à court et moyen terme, qu'un modèle vraiment attractif pour la hijra qui ferait que des dizaines de milliers de djihadistes partiraient.
Et l'Afrique, juste un point sur la question des financements, je pense que ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'en fait toutes les mesures aussi qui ont été mises en place au niveau international au lendemain des attentats du 11 septembre pour contrôler les flux financiers et éviter que de l'argent facilement transite par ce réseau international pour financer des organisations. Ça a quand même beaucoup déstabilisé ce système et que donc une organisation aujourd'hui comme l'État islamique, non seulement elle a moins d'argent pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais n'ont pas la même capacité à utiliser le système international pour envoyer de l'argent, si je puis dire, sur des nouveaux terrains où elle voudrait s'implanter. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que les contrôles, on le voit bien simplement même en France, quand on voit on peut plus rien payer en liquide ou les montants sont très bas. Donc tout ce système qui a été mis en place au niveau international pour contrôler les flux financiers complique la tâche d'une organisation comme celle-ci, s'il lui restait de l'argent et qu'elle voulait l'envoyer sur un autre terrain pour se reconstituer et avoir à nouveau un pouvoir d'attraction qu'elle a beaucoup moins aujourd'hui. Donc c'est un élément supplémentaire de la complexité aujourd'hui face auquel se retrouvent les djihadistes ou des organisations comme l'Organisation d'État islamique pour trouver des financements.
Alors la fin du califat, ça veut dire aussi le retour en Europe de combattants ou de sympathisants de l'EI, hommes et femmes. Romain Caillet, est-ce qu'il faut redouter ces revenants, comme les appelle notre confrère David Thompson? Est-ce que ce sont des repentis ou est-ce qu'il y a forcément des chevaux de Troie parmi eux?
Il y a l'idée de dire que bon, on va mettre en place un système de déradicalisation, on va mettre les gens dans une pièce, ils vont leur faire changer d'idée. Et puis il y a l'autre erreur, l'erreur inverse, c'est de croire que les gens ne changent pas du tout, ils ne peuvent pas faire de virage à 180 degrés. Il y a plein d'exemples dans tous les milieux politiques, dans toutes les mouvances idéologiques, de gens qui ont fait des changements. Néanmoins, c'est vrai que la plupart des gens qui quittent la mouvance djihadiste, c'est souvent pour une autre mouvance islamiste qui leur paraît plus pragmatique, avec des objectifs plus réalisables.
Mais vous écrivez qu'il est impossible de déradicaliser un djihadiste.
Alors moi, nous, ce qu'on écrit, c'est qu'on précise les mots, c'est qu'on ne parle pas de la prévention, mais prétendre qu'on peut avoir une méthode, ramener des gens dans une salle, leur tenir un discours et leur faire abjurer leurs idées, on est face à des charlatans. Faut appeler les choses telles qu'elles sont. La déradicalisation, c'est un échec, mais ça n'empêche qu'il y a des parcours individuels et que on a plein d'exemples de gens qui, par la suite, ont quitté le djihadisme dans le cadre d'un processus individuel.
Agnès Levallois, malgré ces revers militaires en Syrie et en Irak, est-ce que l'EI garde aujourd'hui un pouvoir d'attraction en France, par exemple?
Moi, je pense, j'ai l'impression, mais là, je reste très prudente parce que je trouve que c'est des questions qui sont très difficiles pour lesquelles, enfin, d'avoir des réponses précises, très difficiles. J'ai l'impression que le pouvoir d'attraction est bien moindre aujourd'hui. Donc, ce rêve de certains jeunes qui, à un moment, dans les années plutôt 2014-2015, ont eu envie de partir parce qu'il y avait le sentiment aussi qu'en Syrie, ils allaient défendre une cause humanitaire. Il y a des jeunes qui sont partis aussi sur ce registre-là, même si ça peut nous faire sourire, mais ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, tout l'état de l'information sur ce qui se passe en Syrie, en Irak, sur les réalités de ce qu'a été le comportement de Daesh dans les zones qu'elle contrôlait avec toutes les exactions commises, a, je pense, fait quand même vraiment baisser le niveau d'attraction que peut représenter cette organisation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pouvoir d'attraction, de leader. Je fais la différence en fait entre les deux. Et donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire en Europe, en France, pour que des jeunes soient moins attirés, si on estime que c'est ça qu'il faut faire, par cette idéologie. Mais l'idéologie, pour moi, elle est encore présente. Maintenant, là encore, la difficulté, c'est comment on règle ça, parce que c'est une question aussi qui est éminemment politique. Pourquoi des jeunes ont eu envie de partir en Syrie ou en Irak? Qu'est-ce qui a fait? Quel a été le moteur de cet engagement? Donc, si on ne travaille pas sur les raisons de ce moteur, à mon avis, là encore, on risque d'aller vers des échecs non seulement parce que des jeunes seront encore attirés, pas forcément par le modèle tel qu'il a existé sur le terrain, mais une idée, une idéologie qui est là, qui est dans leurs esprits, et comment faire en sorte, pour ceux qui ont été attirés par cela, qu'ils se rendent compte finalement qu'ils se retrouvent dans une impasse, parce que la déclinaison de cet engagement peut les conduire quand même très très loin. Moi, j'ai fait plusieurs interventions en prison auprès de jeunes radicalisés. On est confronté là à une situation où on s'aperçoit qu'il ne peut y avoir qu'une réponse au cas par cas. Je ne vois pas de modèle unique, je ne vois pas de possibilité d'établir, de réfléchir à un modèle pour travailler avec ces jeunes. C'est impossible. On est face à des situations qui sont radicalement différentes les unes des autres. Les raisons de l'engagement, il faudrait d'ailleurs beaucoup plus de temps que ce que l'on fait pour comprendre et essayer d'amorcer un dialogue permettant, moi je dirais simplement, d'ouvrir une brèche et permettant à la personne en question de pouvoir, à partir de cette brèche qui a été ouverte dans une discussion, de pouvoir réfléchir et avoir un cheminement qui peut l'amener à autre chose. Mais on est dans une situation, de ce point de vue-là, extrêmement complexe.
Mais Romain Caillet, vous êtes très pessimiste dans votre livre. Vous écrivez « Cette guerre contre le terrorisme est une guerre sans fin ».
Oui, c'est une guerre sans fin dans le sens où la raison pour laquelle les pays occidentaux font la guerre aux djihadistes, c'est parce que ils voient dans ces groupes, à juste titre, une menace terroriste qui peut commettre des attentats chez eux. Or, eux, ces groupes, dans leur logique, dans leur discours, disent « on frappe ces pays parce que ils nous bombardent sur nos
donc c'est positions sur le territoire. »
C'est un cercle vicieux. Je vois pas de porte de sortie. Soit il y aura un changement de contexte politique, il y aura une autre offre islamiste qui sera pas dans le logique de combat contre l'Occident, qui émergera et qui va réussir à séduire une grosse masse de gens qui pour l'instant se tournent vers le djihadisme.
Jean-Luc Racine, vous êtes d'accord, c'est un cercle vicieux. Comment sortir de cette guerre contre le terrorisme?
Je crois que le constat général a été fait tout à l'heure s'agissant de ce qu'on appelle la déradicalisation. On sait bien que bon, y a pas une recette magique. Et quand on regarde un peu ce qui se passe dans des pays qui l'ont tenté, y compris l'Arabie Saoudite, il faut essayer de trouver le juste équilibre dans l'analyse entre ce qui relève des dynamiques propres de l'État islamique et de ses antennes, mais j'aime pas trop ça, parce que moi je suis un peu dubitatif, quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'État islamique va s'implanter? Je sais pas ce que c'est que l'État islamique aujourd'hui. Deux, est-ce qu'il a les moyens de définir une stratégie globale? L'autre volet, c'est de savoir comment réagissent les États, à la fois en tant que tels et en commun. On parlait de l'Asie du Sud-Est, il y a des réunions régulières entre Singapour, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie. J'évoquais brièvement les tentatives initiées largement par Moscou, mais avec l'appui des Chinois pour trouver une solution à la crise afghane, parce que quand même, le schéma le plus souvent pris en compte par les instances internationales, c'est de dire qu'est-ce qui est le plus proche du Moyen-Orient et qui est dans un état affaibli. C'est évidemment l'Afghanistan, où il y a eu à la fois, donc je le répète, mais c'est important, des talibans pakistanais, jadis des combattants arabes, aujourd'hui des gens du mouvement islamique d'Ouzbékistan qui ont été pendant longtemps des gardes du corps des chefs talibans afghans, et mouvement qui lui a fait allégeance. Mais ça veut dire quoi par rapport à ce que sont les régimes d'Asie centrale ? Extrêmement autoritaire, sans doute trop autoritaire, puisque c'est leur autoritarisme qui peut faire naître, faute d'opposition démocratique, une opposition islamiste, radicale, armée ou pas. Mais ça, c'est regardé au microscope et par Moscou et par Pékin.
Et ça fera sûrement l'objet d'un autre géopolitique. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Romain Caillet, Jean-Luc Racine, Agnès Levallois. Romain Caillet, je rappelle que vous venez de publier chez Stock avec Pierre Puchot, Le combat vous a été prescrit, une histoire du djihad en France. Merci à Véronique Durand et Valentine Brasselet qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Nathalie Laporte qui l'a réalisée. On se retrouve demain à 18h10, temps universel, pour la diffusion de l'émission en Afrique, et 19h10, temps universel, 20h10, heure de Paris, pour le reste du monde. Bon week-end.